L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. une surprise aussi, c'est que vous ayez vendu une grande partie de la fortune de votre père, sauf certaines actions. Elle lui dit, et la maison, mais vous m'avez fait signer les trois papiers, vous savez, et mon mari était mort, j'étais pas bien. La mort de mon père, la maladie de mon mari, c'était beaucoup pour moi. Il lui dit, je comprends. Enfin, vous êtes malgré tout très riche. Elle lui dit, oui, très riche. Enfin, c'est ce que on me le dit. Elle en est toute retournée et quitte la soirée. Un jour, elle reçoit une lettre de Charlotte qui lui dit qu'elle l'invite à passer un séjour chez une amie à elle, dans un château dans le Périgord. Elle lui écrit que ce sera délicieux. Venez, nous serons tranquilles. Si vous dites oui, il faut me prévenir de suite. Nous partirons samedi 21. Mais nous resterons quelques jours. Elle réfléchit et se dit qu'elle veut y aller. Elle changera les idées. Alors, elle téléphone à Charlotte. Allô? Je suis Florence Marquèche et j'aimerais avoir Charlotte, s'il vous plaît. Allô, Charlotte? Je suis d'accord pour l'invitation, je te remercie. Charlotte lui dit. Alors venez vendredi à 18h. Nous partons de suite. Bien. Elles sont parties, toutes heureuses de se retrouver. Le voyage se passe d'une façon très agréable. Elles arrivent dans la soirée. Le château se trouve au fort de parc très boisé. Il est du 18e. Les gens qui les reçoivent sont de vieux nobles et de Courtrai, vieille famille de comtes. Tous les deux distingués, mec, cheveux blancs, tête osseuse. Lorsqu'elles arrivent, elles sont amenées à leur chambre. Et elles ont une chambre l'une en face de l'autre. Le château est meublé de meubles très vieux, mais c'est agréable. Après avoir rangé leurs affaires, elles sont allées dans la salle à manger. Le comte dit à Florence, « Nous connaissons Charlotte depuis qu'elle est toute petite. Il a passé ses vacances chez nous et a appris à monter à cheval ici. Et vous, mademoiselle, vous êtes une amie de notre Florence. » Elle lui dit, Oui, l'on peut dire comme ça. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Elle pense beaucoup à moi. Elle ne me laisse jamais tomber.
Vous vivez seul ?
Oui.
Je comprends. Moi et ma femme, nous vivons seuls depuis que nos 6 enfants nous ont quittés. C'est pas facile pour nous. Je fais vieux, eux parcourent le monde.
La soirée se continue dans le salon. Le vieux continue à leur parler des histoires de ses ancêtres. La vieille comtesse demande à Florence :
« Est-ce que toutes ces vieilles histoires ne vous ennuient pas trop ?»
Elle lui dit : « Non, bien au contraire. J'aime beaucoup le passé, enfin celui des autres, parce que le mien commence à m'ennuyer. » Elle lui dit :
« Pourtant, vous êtes bien
Florence lui dit : « Ça m'empêche pas d'avoir un passé assez pesant. » Le séjour se passe bien, les deux jeunes femmes s'entendent bien. Charlotte lui montre le château, le domaine et lui parle de son enfance. Elle lui dit : « Ici c'était le paradis. » Florence lui dit : « Je t'envie. Tu veux faire du cheval ?» Florence lui dit : « Je ne crois pas que je sois... en faire, elle lui dit. Si tu as su en faire, tu dois encore savoir en faire. On n'oublie pas ça. Allez, demain nous ferons du cheval. Tiens, même cet après-midi. » Elles sont parties l'après-midi, toutes les deux à cheval. Florence a très vite su, étonnée d'ailleurs. Et son cheval file à vive allure dans les bois, touffu. Elle aime ça, ça la grise. Charlotte la suit. Florence file, file, file. Tout à coup, elle voit en travers du chemin un arbre étendu. Elle veut faire freiner son cheval, mais son cheval continue sa course. Il est furieux parce qu'il a été piqué par un temps. Il fonce, furieux. Et juste au moment où il arrive vers le tronc d'arbre, il freine d'un coup, ce qui fait tomber Florence à terre, et le cheval, furieux, se met à courir et disparaît. Il s'est enfui. Elle se relève, étourdie, voit que son cheval est parti, lui court après, mais est disparu dans les bois. Elle a des courbatures de partout, la tête qui lui tourne, mal à la tête aussi. Elle est furieuse, se met en route. Se met en route, le temps passe.
La nuit tombée. Elle ne sait plus où se trouve le domaine. Elle est prise entre les ronces, les rochers. Elle est perdue, elle ne sait plus. Elle ne sait plus rien. La nuit est tombée d'un coup. Elle a peur, entend des bruits de bêtes, se sent perdue. Elle a peur de tout ça. Elle en a assez. Et là, au milieu des bois, tombe nez à nez sur une cabane. Elle voit de la fenêtre du feu. Vite, elle se dit, voilà, on va pouvoir me secourir. Elle s'approche de la cabane qui a l'air bien délabrée, presque en ruine. Frappe pas la porte. La porte s'est ouverte et apparaît un homme fort, avec cheveux et barbe, en broussailles, habillé en haillons, un haillon déchiré. Elle est surprise, mais lui dit, « Bonjour monsieur, je me suis perdu dans la forêt et je ne sais comment m'en retourner au château. Mon cheval m'a désarçonné et je marche depuis des heures au hasard sans savoir où je vais. » Il lui dit,
« Entrez !»
Elle entre. C'est une pièce, le sol c'est de la terre, les murs ne sont même pas crépis, rien. Il y a dedans une paillasse à terre, une table, une chaise, à terre des ustensiles de cuisine, accroché au mur un fusil. Il lui dit, perdu ? Elle lui dit, oui. Elle comprend qu'il est à moitié sauvage, une espèce de bête. Il lui dit, vous pouvez me ramener au château ? Il dit, oui, oui, château. Vous voulez boire l'échelle ? Bon, bon. Pour ne pas le gêner et le vexer, elle accepte. Il va prendre une cruche en terre qui est à terre, et un verre, enfin plutôt un gobelet, la serre. Merci. Elle boit, c'est aigre, mais ne dit rien, demande. Bon ? Elle dit, oui, très bon, merci. Elle lui demande, vous vivez seul ici ? Elle dit, oui, seul, ici. Bien ici, bête, calme. Après avoir bu son lait, elle lui demande, vous pouvez me ramener là-bas parce qu'ils doivent s'inquiéter. Il lui dit, oui, bien sûr, venez. Et ils sortent de la cabane. Il la guide à travers bois. Elle ne voit pas très bien où elle va. N'y voit rien, sauf à part le bruit, la lumière de la lampe. De la lanterne. Au passage difficile, il l'aide. La soulève. Ou soulève les branches. Elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée devant le portail du château. Lui dit, voilà. Elle lui dit, merci. Ben, au revoir. Et il demande, vous voulez pas rentrer? Pour vous remercier ?
Il lui dit, non, château, pas bon pour moi.
Et s'éloigne. Elle sonne au portail. On vient l'ouvrir. Merci. Et se dirige au château. Sonne à la porte. La porte s'ouvre. Elle demande, où sont-ils ? Et lui dit, au petit salon, madame. Je vais vous montrer. Et elle va au salon. Lorsqu'elle rentre, ils accourent à elle. Charlotte lui dit, comme nous avons eu peur. Ton fila cheval a filé comme un fou. Nous n'avons pas pu le rattraper. Et il est revenu tout seul. Mais nous t'avons cherché. Impossible de te trouver. Nous avons prévenu les gendarmes que tu étais perdu. Femme du camp lui dit, nous sommes très heureuses de te revoir. Que s'est-il passé ?
Mon cheval m'a déjà sonné. Il a filé. Je me suis trouvé à moitié assommé dans la forêt.
J'ai cherché. Je n'arrivais pas à retrouver mon chemin. La nuit est venue très vite. Alors, j'ai tourné en rond. J'ai trouvé une masure. Dedans, il y avait une espèce de sauvage qui m'a offert du lait et m'a ramené jusque-là. Tout le monde l'embrasse.
Le comte lui dit, vous n'avez rien. Nous, juste des égratignures et des petits bobos.
Mais tout va bien. Allez vous changer. Et elle va dans sa chambre. Elle va à sa chambre. Après s'être lavée, changée, elle retourne au salon. Elle va s'asseoir près de la comtesse. Le comte monte à Charlotte sa collection de papillons. Comme il faut une loupe pour regarder, Florence les laisse.
Florence dit à la comtesse, j'ai été très surprise de trouver en face d'un homme à moitié sauvage qui semblait plus à une bête qu'à un homme. Mais il était très bon pour moi.
La comtesse lui dit, ne parlez pas de lui.
C'est un secret. Un secret que personne ne doit savoir. En réalité, c'est le fils naturel de mon mari. Un brave gars, mais il est à moitié bête. Avant, il vivait dans le château avec nous. Il ne savait pas qui il était. Il était très bien traité, comme notre fils. Malheureusement, il était tombé amoureux d'une de nos filles. Mon mari a mis le holà en lui disant ce qui en était, que sa fille était sa demi-sœur. Il a été surpris, effondré, parce qu'on lui avait dit qu'il était le fils d'un ami de mon mari, un officier mort à la guerre, et qu'on l'avait pris pour l'éduquer. Et là, on lui dit que c'était un bâtard, un fils de rien. Sa mère, une fille de ferme à moitié folle, morte. Parce qu'elle avait perdu la raison. Elle est tombée dans le puits du château. Lorsqu'on lui a dit tout ça, il a eu honte et est devenu furieux. Et en plus de la honte, la surprise d'avoir aimé sa demi-sœur. Mon mari a évité qu'il y ait un scandale à cause de sa fille. Il l'a fait partir du château. Il l'a mis dans une cabane. Et avec la permission de chasser. Malheureusement, il a fini par devenir idiot. De vivre seul, ça l'a rendu un peu fou. Mais c'est un gentil garçon, comme vous voyez. Ma petite, il est dangereux de connaître ses origines. Il vaut mieux faire semblant. C'est mieux pour soi et pour la société. Elle est troublée par cette histoire. Elle se dit que c'est vrai. On ne devrait plus penser à tout ça et vivre. Le lendemain matin, le retour pour le petit déjeuner, Charlotte, le comte, sa femme et, surprise, René. Et il demande « Que faites-vous ici ?» Il dit « Je suis venu aux nouvelles. Je suis venu voir si vous alliez bien. Je croyais que vous cherchiez à me voir simplement par amitié. Et là, je vois que vous me surveillez. C'est la preuve que vous n'avez pas d'amitié pour moi. Ce matin, elle voit tout en noir. Elle voit tout en noir. Elle se sent, en voyant René, elle se sent surveillée. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il est venu. Et pourquoi on la surveille ? Que veulent-ils ? Ou que veut-il ? Il lui dit : Bien sûr que j'ai de l'amitié pour vous. Elle lui demande : Comment avez-vous su que c'était là ? Il lui dit : Je connais ces personnes qui m'ont dit dans leur conversation qu'il vous avait invité. Elle ne le croit pas. Elle pense que c'est son beau-père qui l'a fait surveiller par lui. Le boude. Il lui demande « Pourquoi est-ce que vous me boudez ?» Elle lui dit « Pour rien. Moi, j'avais de l'amitié pour vous. Puis j'en ai assez des mystères qui m'entourent. Je veux vivre librement. » Il lui dit « Vous n'avez qu'à vivre sans vous poser de questions. » Elle lui dit « Chaque fois que j'ouvre une porte, je me trouve devant un mystère. » Le séjour se continue. En fait, excursion. Un soir, elle entend le maître de maison dire qu'elle a bien changé. On dirait que c'est pas la même. Pourtant, elle venait souvent nous voir, ici. Le jour est fini, elle rentre à Paris avec René. René qui veut se réconcilier avec elle. Puis, de galance, elle finit par accepter. Parce qu'il est gentil, malgré tout. Elle lui demande c'est mon beau-père qui vous a dit de me surveiller ?
Oui.
Mais moi aussi, j'étais inquiet. Vous êtes si fragile. À Paris, elle retrouve Patrick, le libraire, et Charles. Un jour, entre chez le libraire une vieille femme, cheveux blancs, distingués, habillée en robe noire. Elle lui dit qu'au lieu de jouer à la marchande, elle ferait mieux de s'occuper de ses affaires. Qu'elle sait où vit son mari. Elle lui demande « Où vit-il ? » Elle lui dit « Dans un endroit où on ne risque pas de le retrouver. » Donnez-moi son adresse. Elle la lui donne. C'est une rue très populaire de Paris. Il se cache de vous. Pourquoi ? Vous devriez le savoir. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et la vieille la quitte sans dire qui elle est. Florence en a marre. Elle en a marre. Elle le dit à Patrick, qui lui dit qu'il faut y aller voir. Donne un baiser sur la joue et lui dit qu'il l'aime beaucoup. Ils essayent de trouver où se trouve cette rue populaire. Décide d'y aller. Ils y vont. Mais comme toute cette rue, une maison lépreuse, où trouver une personne ? Il regarde les noms sur les boîtes aux lettres, demande au commerçant. Patrick lui dit qu'il a dû changer de nom. Il faut le décrire physiquement. Une photo ? Oui, elle en a une. Elle monte la photo dans la rue. On ne lui dit rien. On ne voit pas. Par contre, l'épicier dit qu'il ressemble à Monsieur Paille.
Un propre garçon. Pas très costaud, mais qui fait bien. Peut-être un ancien étudiant qui cherche du travail.
Il lui dit où il habite. Ils y vont. Immeuble minable. Allée sombre, minable, lugubre. L'allée est vraiment lugubre. Ils sont bousculés par quelqu'un. Frappe à une porte.
à la porte. Il est marqué le nom de la personne. Une porte en face s'ouvre. C'est un vieil homme. Il dit
« Il vient de partir. Vous avez dû le croiser. »
Vite. Ils sortent de l'allée.
Malheureusement,
ils voient un homme s'engouffrer dans un taxi et le taxi filer. Ils n'ont pas vu l'homme qui s'était engouffré dans la voiture. Patrick demande
« C'était lui ?»
Elle lui dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Retournons dans l'allée pour demander au vieil homme s'il se souvient. »
Oui, nous n'avons pas pu voir la personne. Le vieil homme leur dit,
je m'appelle Pierre Marx, je fais de la radio, radio libre, et je fais des émissions à l'écoute du monde. Je vais aussi dans mon petit village.
Mais, le voisin, est-ce que vous le connaissez?
Oui, un peu. Je lui arrose des plantes. Je lui fais quelques courses et je m'occupe de son chat.
Mais, est-ce que vous savez... Tenez, regardez ça, cette photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est lui?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'y vois pas grand-chose.
J'ai une mauvaise vue.
Que fait-il?
Rien. Il sert à rien.
Rien du tout.
Mais viens le voir, un vieil homme, de temps en temps.
Et il demande que s'il revient, de la prévenir. Lui donne son adresse et il s'en retourne.
Patrick lui dit qu'il faut aller à la police et lui dit non. Parce que ça ferait des ennuis.
Elle a déjà créé un scandale à cause du corps. On va la traiter de folle.
Attendons, nous verrons bien.
Pierre Marx est retrouvé assommé dans son appartement. Il ne peut plus parler. Son frère et sa belle-sœur, la nounou, le prennent avec eux et le ramènent à Lyon. Florence se demande pourquoi est-ce que son mari a voulu jouer le mort. Patrick lui dit, ça doit être une histoire d'affaires, d'argent. Et il demande, une fois mort, qui hérite? Elle lui dit,
moi.
Il dit alors, fais très attention à toi. Tu devrais te renseigner sur ta fortune. Elle va voir son notaire qui lui dit qu'elle a hérité d'une très grande fortune de son père et aussi de son mari. Mais malheureusement, elle a signé beaucoup de procurations et de chèques à son beau-père. Elle lui demande, « Mais moi, si je meurs, ça change quoi ?»«
Rien, sauf que c'est votre beau-père qui héritera de toute votre fortune. »
Elle se dit, « Mais pourquoi mon mari a disparu ? À quoi cela servirait-il, sert-il ? Parce que, même avant ma disparition, j'étais déjà sous son emprise. L'emprise de mon beau-père. Elle ne comprend plus. Le terre lui dit de surveiller
mieux votre fortune.
Lorsque son beau-père veut lui faire signer des papiers, elle refuse.
C'est pourtant bien.
C'est faux.
C'est pour fructifier ton argent.
Elle refuse. C'est mon notaire qui s'occupera de tout ça, désormais. Un homme entre chez le notaire. On ne voit pas son visage parce qu'il ne fait pas assez jour. C'est pas assez éclairé.
Ça t'apprendra à jouer le double jeu.
René vient la voir et lui demande ce qu'elle a, si elle va bien. Elle lui dit qu'elle ne sait toujours pas si son mari est mort. Il lui dit, vous voulez pas accepter la mort d'une personne chère, mais il faut accepter la vérité, et il faut vivre. Votre beau-père semble très inquiet pour vous, elle lui dit. Il est surtout inquiet pour son portefeuille. Il est tout rouge. Il demande si elle se soigne. Elle lui dit oui. En réalité, elle ne prend plus ses médicaments. Elle a moins de cafards, bien sûr, mais elle se sent bizarre et a l'impression d'avoir plusieurs personnalités. Elle vit comme dans un brouillard et se demande si elle ne vit pas dans un cauchemar. Elle aime des choses qu'elle ne mangeait pas. Des fois, elle a des désirs qu'elle n'avait pas. Courir, besoin de sucrerie, danser, prendre des côtés des involtes et parler à des inconnus dans la rue. Elle se dit qu'elle est devenue folle. Bien entendu, tous ses désirs, elle ne les extériorise pas. Ils sont en elle, mais elle les sent. Elle les sent, elle sent qu'elle a vraiment besoin de faire tout ça. Le libraire l'invite toujours chez elle à manger le soir. Passe des soirées très agréables. Elle se met aussi à aimer lire des romans populaires. Patrick, elle le voit de plus en plus souvent. Mais
Elle se sent attirée par lui, de plus en plus. Et elle a besoin de le voir. Mais elle a honte et se dit qu'elle est folle, aimée presque un enfant. Elle décide, c'est de réaménager son appartement avec l'aide de René et de Patrick. Ça la distrait. Elle va assister à la démolition de la maison. Ça la triste. Elle se sent tellement attirée par cette petite maison.
Oh, je vais sonner la mèche. C'est tout bien avec nous. C'est plus sûr. Mais plombe-toi, idiot.
Son beau-père dit de partout qu'elle est devenue folle, folle alliée. Sa belle famille l'entoure. Lorsque les gens la rencontrent, on dit pauvre fille. Retourne à l'immeuble où est, soi-disant, son mari, où habite peut-être son mari. Sonne à la porte, il n'y a personne. À l'autre porte, de Pierre Max, non plus. Elle tombe sur la concierge, une dénommée Terrier, qui lui dit que le pauvre Pierre Max a perdu la tête et qu'il est retourné à Lyon. Et que l'homme qui habitait en face de Pierre Max est parti et qu'il a oublié une valise. Tenez, je voulais la donner, elle me sert à rien. Elle la prend. Une fois chez elle, elle l'ouvre, trouve des vêtements, une photo d'une femme. Mais qui est cette femme? Pas d'identité, rien. Il n'y a rien sur lui non plus. Rien sur son mari. Il explique tout ça à Patrick. Patrick lui dit de garder la valise et la photo. Son appartement était fini d'aménager. Elle pend la crémaillère. René est invité. Le libraire, sa famille. Bien sûr, Patrick, Charles, quelques connaissances et surtout Charlotte. La soirée se passe bien. Hello.
On lui dit qu'elle devrait se remarier. Elle leur dit qu'elle ne sait pas du tout si elle est vraiment veuve. On lui dit qu'elle fait une très belle veuve. On lui dit que son beau-père est furieux contre elle. Une femme, une voisine du quartier qui s'appelle Pascal, tout le monde l'appelle la mère Michel parce qu'elle aime bien les chats. Elle lui dit qu'elle ressemble à une personne qui a disparu. Une fille étrange. Florence lui dit, je peux être celle-là? Pascal lui dit, parce qu'elle se moque d'elle ou de la fille. Elle dit qu'il ne faut pas se moquer des choses là, que la perte d'un enfant, c'est terrible. Florence, qui comprend rien du tout, lui demande, elle avait de la famille, comme tout le monde, ma fille. Où sont-ils? Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.